7000. 8000.
Cherche plus à...
9000.
À figurer quoi que ce soit. Ce que je cherche, c'est l'âme.
10 000.
Donc pour avoir l'âme, il faut lui donner l'âme.
500.
Donc c'est des couches successives de matière, de couleur.
10 500, premier téléphone.
Là par exemple, c'est la quatrième couche. Pour donner la puissance qui sera derrière le blanc.
11 000.
Donc le résultat, ça donne tout ce qui est derrière vous.
500.
Bien sûr, on aime ou on n'aime pas, mais le principe de cette peinture, c'est pas qu'on l'aime, c'est qu'on la ressente.
12 000.
Ça ne m'intéresse plus de figurer quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est de donner une émotion. Pour donner une émotion, pour qu'elle existe.
Je vais être jugé. Aucun regret pour vous au téléphone. À 12 000. J'adjuge à 12 000.
Que c'est facile de tricher en peinture. Il suffit de perdre dans le sens de la personne qui regarde le tableau. Je discute une heure avec toi ou avec vous. Je vais savoir ce que tu aimes, je peux faire pile poil ce que tu aimes. Mais l'art, c'est pas de séduire, c'est de faire. Je cherche plus à séduire, ça m'intéresse plus. C'est le seul gain que j'ai eu de cette histoire. C'est que c'est réel, cette peinture est réelle. C'est pas du bluff.
C'est un très beau nu de la même année 1927, encore une grande toile. Et nous commençons là également à 45 000 euros.
45 000.
Sur le marché de l'art, j'ai pas fait l'exposition depuis des lustres, donc on connaît horrible le personnage et le peintre, le faussaire. Bon, mes amis proches connaissent ma peinture, évidemment, mais le reste...
Portrait d'un faussaire. Jean-Baptiste Pertier, Yvon Croisier.
Monsieur, pardon, 74 000. 74 000 nous sommes. Je vais être jugé. Pas de regret. 75 000. Il était temps.
75.
J'allais être jugé. Aucun regret, monsieur. Vous n'en voulez plus. J'adjuge. Jugé.
Jean-Luc Léon, vous êtes cinéaste et vous avez un projet de film sur Guy Ribes. Qu'est-ce que vous savez de sa vie ?
Mais en fin de compte, assez peu de choses parce que j'ose pas lui poser trop de questions. À chaque fois qu'on évoque le passé, il est au bord des larmes. Et comme ça me gêne de le voir dans cet état-là, on passe à autre chose. Ce que j'ai compris, c'est quand même un enfant... traumatisé par son origine. Il est né dans des conditions un peu baroques, enfin bizarres, je crois dans un bordel. Je crois que sa maman faisait ce qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Son papa, j'ai l'impression qu'il exploitait la maman. Et puis c'est devenu illégal. Et ses parents ont disparu en prison pendant un certain temps. Après, je crois qu'il a été recueilli par des jésuites, mais il faisait bande à part parce qu'il venait du sous-prolétariat. À 8 ans, il a été dans une soirée à Lyon, et c'est là où, en fait, le bonheur a commencé. C'est qu'il a appris beaucoup de choses sur le dessin et la peinture avec des maîtres qui faisaient des soirées. Et à partir de là, il en parle avec bonheur.
Maître Lévy, pourriez-vous esquisser un portrait physique de Guy Ribes ?
Oh là. Je suis un peu ennuyé d'aller comprendre pourquoi. Durant le procès, un journaliste avait dit, je crois, de Guy, qu'il était enrobé. Je crois que c'était le mot. Il voit l'article le lendemain matin et il avait vu le journaliste du Parisien qui était très sympathique. Il va le voir et lui dit, dis donc, qu'est-ce que t'as écrit là ? Il dit, je sais pas, c'est quelque chose. Et puis l'article était très gentil en plus. Il avait dit, tu te fous de moi ou quoi ? Demain, si je revois la même chose, t'auras affaire à moi. Donc, voilà, décrire Guy, c'est plutôt faire un portrait moral de lui, car physique, j'ai peur de le vexer, et il le fera lui-même. C'est un portrait moral de lui, c'est d'abord, c'est quelqu'un qui a ses principes, qui a son éthique, qui considère qu'on peut être un faussaire mais qu'on n'est pas nécessairement mauvais, qu'on peut faire des faux artistiques sans être nécessairement un truand, qu'on peut être lié avec des escrocs sans en être un soi-même. C'est un personnage à la fois de roman, de théâtre, de cinéma. Sa vie est une toile et vous avez l'impression que vous demandez toujours en la voyant défiler ce qui va vous dessiner ensuite.
Et à chaque fois qu'on rencontre Guérib, il y a un petit morceau de sa vie qu'on apprend en plus. Et je me demande combien de temps ça va durer parce que les chevaux a l'air d'être très long. Il a eu plusieurs vies, c'est clair. Donc sur son passé, à part ça, je sais qu'il a été dans la marine pendant un temps et je ne sais pas pourquoi. C'est pas lui qui a décidé, mais il s'est retrouvé dans la Légion. De temps en temps, quand il a légèrement bu, il montre sa main droite et il dit « Tu vois celle-là ? » Elle a tué. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ou est-ce qu'elle pourrait tuer? De temps en temps, il est entre la magie et le réel. Je ne sais pas tout ce qui est vrai. Est-ce qu'il en raconte pas assez? Est-ce que...
À votre avis, Jean-Luc Léon, c'est quelqu'un, Guy, qui romance sa vie?
C'est très délicat comme question ce que vous me demandez. Est-ce qu'il est faussaire uniquement dans la peinture ou aussi dans sa vie? Non, je le trouve assez sincère, mais blessé, très... Donc s'il fausse quelque chose, c'est pour que ça soit moins dramatique. Peut-être pour ne pas nous faire trop peur, parce que je crois que c'est bien pire que ce qu'il raconte. C'est-à-dire qu'il a presque tendance à enjoliver des moments qui étaient monstrueux. Il a envie de les enfouir, il n'a pas envie que ça ressorte, il n'a pas tellement envie d'en parler. Et d'ailleurs aujourd'hui, il est dans une période où moi je m'intéresse à lui parce qu'il était faussaire, et lui voudrait qu'on s'intéresse à lui uniquement parce qu'il est artiste peintre, et il voudrait qu'on regarde uniquement les tableaux d'aujourd'hui. Mais les tableaux d'aujourd'hui, la production depuis un an, il y en a une vingtaine. Mais il paraît qu'il a fait des milliers de faux, et ça quand même, j'aimerais bien les voir. À son procès, il paraît qu'il y avait 350 tableaux, ou peut-être plus, au moins 350, qui étaient exposés soit physiquement, soit en diapositive, pendant le procès. Et les avocats, semble-t-il, regardaient les tableaux, discutaient de la qualité, et puis certains avaient vraiment envie de les acquérir, pour de l'argent. Mais son vraie œuvre de faussaire, c'est pas sa vie, c'est dans les peintures. Il a imité, semble-t-il, parce que j'en ai pas beaucoup de preuves, beaucoup de peintres célèbres et chers. Et de tout ça, il ressort qu'on a un homme qui a 64 ans, veut refaire sa vie. Il voudrait être reconnu et rémunéré comme un artiste. Et c'est très long à décoller.
Guy Rib, est-ce qu'au cours de votre carrière de peintre, vous avez pratiqué l'autoportrait?
Rarement. Très rarement. Autoportrait, c'est-à-dire me représenter moi-même? Je pense pas, mais je pense que quand on peint, on se représente toujours quelque part. À mon avis.
Est-ce que vous avez le souvenir de ce qui vous a donné envie de peindre?
C'est toujours des questions éternelles. Qu'est-ce qui vous a donné envie de peindre? Moi, je pense que c'est la peinture qui a eu envie de moi. Je crois que c'est le contraire. On peint pas pour représenter quelque chose ou pour gagner quoi que ce soit. On peint parce que c'est vital. Donc, d'où le paradoxe avec les faux, quoi. En réalité, on ne fait pas des faux. Pas comme je les faisais moi, c'est-à-dire je copiais pas. Je faisais pas des copies, je faisais pas des contrefaçons. Je faisais des... J'étais. Tous les Chagall que j'ai fait, tous les Picasso que j'ai fait, tous les Matisse, tous les... Peu importe le peintre, première chose à faire pour faire une œuvre, parce que c'est, pour moi c'est des œuvres, c'est d'être le peintre.
Si on reste encore un petit peu sur la période de votre, disons, de votre jeunesse, vous avez commencé, je crois, à vendre votre peinture très jeune.
Moi, j'ai travaillé très tôt À 12 ans, j'allais à l'usine, dans une usine de bonbons avant d'aller à l'école. Ma liberté à moi, c'était de dessiner. Voilà.
C'était sur les marchés, je crois que vous avez vendu votre premier, oui, vos premières peintures.
Ma mère m'a fait rentrer dans un atelier de soierie, où j'ai été pris tout de suite comme apprenti. Et la nuit, je me servais du matériel de l'atelier pour faire des aquarelles, des trucs que je vendais sur le marché après. Jusqu'au jour où le patron m'a attrapé, il est arrivé un peu plus tôt que d'habitude. Et il m'a trouvé en train de dormir sur les tables, quoi. Et j'ai continué, il n'a rien dit à personne. Il m'a dit, reste là. Et il faisait semblant de ne pas voir que je prenais du matériel. C'était un homme extraordinaire. Paul Spey. Voilà.
Est-ce que vous êtes issu d'une famille où on pratiquait déjà le dessin ou la peinture ?
Pas du tout. Chez moi, ils pratiquaient plutôt le revolver que la peinture.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ils pratiquaient plutôt le revolver que le pinceau ?
Mon père était ce qu'on appelle un gangster à l'époque. Ces vieux personnages, quoi, des gangs des tractions avant et compagnie. Moi, à la maison, je me souviens, quand j'étais gamin, j'ai vu passer quasiment tout le gratin de Joatia à Mémé Guérini, à Salvatore, Estradi, tous.
Alors, outre la soierie, vous avez eu aussi une autre école, si on peut dire, c'est l'armée.
À l'armée. L'armée, oui. Mon père, un jour, m'a dit, ça suffit, tu vas t'engager. Et je me suis engagé dans la marine. Tout se passait très bien, tout. Et ma première permission, je ne sais pas si je peux le raconter, mais enfin, j'ai trouvé mon père avec un fusil de chasse à la main dans le couloir, et puis il y avait trois morts, quoi. Les voisins. Je suis arrivé en plein. Ma première permission, ça a été ça. A été de vous dire que mon père passant aux assises, quand je suis rentré dans la marine, on m'a demandé gentiment de quitter la marine, puis de bien vouloir rentrer dans la Légion. Et j'ai fait. Ça n'a rien à voir avec la peinture. Je pense pas. Non, pas ça m'empêchait pas de peindre.
Je crois que c'est aussi une période où vous avez, disons, fait des rencontres avec certaines personnalités, plus ou moins troubles.
On s'écarte de la peinture, là, ça vient du roman. Oui, j'ai rencontré des gens marrants, oui. Oui. Marrants, enfin. On peut le dire vite, mais enfin, c'est une autre histoire. Vous voulez parler de Pomme d'Edard. Oui, j'ai rencontré Pomme d'Edard, bien sûr. Personnage. Tout le monde connaît l'histoire de Pomme d'Edard.
Donc mercenaire français qui a quand même été mouillé dans beaucoup de coups d'État en Afrique et aux Comores aussi.
Ça, vous savez, dans une armée, je pense qu'il y a ceux qui commandent et ceux qui obéissent. Il y a le soldat et l'officier. Je pense que le soldat ne sait pas ce que c'est l'officier. Donc on en reste là.
Guirib, est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit... maintenant je vais devenir peintre... Et il n'y aura plus rien d'autre, enfin, c'est-à-dire je veux vraiment y consacrer ma vie.
Ah oui. Si vous voulez, quand on a eu le parcours que j'ai eu, on a toujours besoin de rencontrer les autres. Et moi, j'ai jamais renié mes amis d'enfance. Bon, c'était pas des Lumières, c'était pas des enfants de cœur, mais je les ai jamais reniés, donc ça m'a fait perdre beaucoup de temps vis-à-vis de l'art. Mais... comme j'ai appris tout seul, quand on est jeune, on veut s'identifier à un style de peinture, on veut copier ce qu'on voit.
Patrick Le Chanu, vous êtes conseiller pour les musées à la DRAC Champagne-Ardenne. Vous êtes également conservateur en chef pour le patrimoine. À quand remonte la notion de faux dans l'histoire de l'art ?
Alors... Ça, il faudrait voir précisément quand le mot apparaît. Car pendant très longtemps, c'est effectivement un mot qui n'est pas appliqué aux œuvres d'art. À l'époque de la Renaissance, et ça on le sait notamment par ce texte fondamental de Vasari, les vies des peintres, on a comme contexte un système de formation artistique qui est fondé sur la copie. La copie, c'est la façon dont on apprend son métier quand on est un artiste. Rubens, lorsqu'il a fait le grand voyage, le fameux voyage de formation artistique en Italie, a copié les grandes œuvres vénitiennes, romaines, etc. Et ceci dit, en passant, aujourd'hui, ces œuvres-là sont beaucoup plus valorisées comme étant des œuvres de Rubens que comme étant des copies d'après certains maîtres de la Renaissance. Alors, dans ce système, la prouesse qui consiste à finalement tromper va être quelque part la marque de la fin de l'initiation et de la formation. Donc, pour revenir à Vasari, l'anecdote avec dans la vie d'Andrea del Sarto, c'est donc un peintre lui-même, Jules Romain, qui est trompé sur une œuvre qu'on lui présente comme étant une œuvre de son maître, Raphaël. Et sa réaction est extrêmement intéressante, puisque au lieu de dire, voilà, d'être offusqué, scandalisé, etc., il dit « je ne l'estime pas moins que si c'était de Raphaël lui-même, voire même plus encore ». Et ça, je trouve, c'est ce qui est très intéressant, car c'est une chose surnaturelle qu'un homme puisse imiter la manière d'un autre d'une façon aussi parfaite.
On peut dire qu'il y a une forme de glorification du faussaire à l'époque de la Renaissance. Et aujourd'hui, Patrick Le Chanu, c'est tout l'inverse.
Oui, c'est sûr que on aimerait bien avoir des réactions avec le panache de Vasari, de Jules Romain. Aujourd'hui, encore une fois, on serait vraiment tenté de dire que dans la mesure où l'on achète des noms et où ce qui prime, c'est la valeur vénale des œuvres, eh bien c'est ça qui, en quelque sorte, prend le devant de la scène. Et ce qui fait scandale, c'est qu'on a acheté très cher une chose qui, soi-disant, ne le vaut pas. Hein. Et cependant, recitons Vasari encore une fois, hein, il y a beaucoup de vanité à attacher plus d'importance aux mots qu'aux faits, c'est-à-dire aux noms associés à une œuvre qu'à sa valeur artistique intrinsèque, quelle qu'elle soit, que ce soit une copie, que ce soit une chose faite pour tromper. Tous les tableaux sont faits pour tromper, de près ou loin.
Maître Lévin, une question technique. Est-ce que vous pourriez faire le point, en quelques mots, sur le faux, la contrefaçon, l'imitation de signature, que recouvrent ces notions ?
Bon, d'abord, évidemment, vous avez la copie servile de l'œuvre. Vous prenez une œuvre d'origine, vous la recopiez à l'identique. C'est ce qu'on qualifie de contrefaçon. Vous avez ensuite un deuxième délit, qui est celui d'imitation de signature. Vous prenez une toile de Vlaminck, vous mettez une signature de Picasso dessus. C'est un délit de faire la signature de Picasso, parce que c'est imiter la signature d'un autre, qui n'est pas la vôtre, et qui, en l'occurrence, est celle d'un artiste. Donc là, vous avez un deuxième délit. Il y en a un troisième, qui cette fois-ci est beaucoup plus difficile et qui la plupart du temps est lié avec le deuxième, c'est-à-dire avec la question de la signature, c'est la question de l'œuvre à la manière d'eux. Aujourd'hui, si vous faites une œuvre à la manière d'un artiste, mais que vous la signalez comme telle, vous avez le droit. Là où évidemment ça devient plus problématique, c'est lorsque vous vendez cette œuvre en la faisant passer pour l'œuvre de l'artiste que vous avez imité. Et évidemment, là où ça l'est encore plus, c'est lorsque vous joignez à l'œuvre en question la signature de l'artiste imité. Puisque là, vous avez donc un ensemble où vous avez une œuvre imitée, ce que vous pouviez faire, avec la signature que vous ne pouviez pas imiter, et le simple fait ensuite de le mettre en vente et donc de tromper, de déterminer, comme on dit, un acheteur à vous remettre une somme d'argent, en l'occurrence, c'est là que vous franchissez, oui, la ligne jaune et que vous constituez le faux artistique.
Guy Ribes, pourquoi à un moment donné vous vous êtes mis à faire des faux ?
Ah. D'abord par jeu, par admiration pour un peintre qui s'appelle Claude Besbuche. Les premiers pots que j'ai faits, c'était les Besbuche. J'adorais ce qu'il faisait. Et à l'époque, j'habitais en Provence, dans un petit village, tout petit village. Et le seul amateur d'art du coin, il adorait Besbuche, mais il ne pouvait pas s'en acheter un. Alors j'en ai fait un. J'en ai fait deux, j'en ai fait trois, j'en ai fait quatre, j'en ai fait cinq. Jusqu'au jour où Besbuche, Claude, que je connais très bien, il m'a dit « Guy, t'arrêtes maintenant. » Alors j'ai passé à un autre peintre. Puis un jour, je me suis pointé avec une aquarelle de Chagall. Mauvaise, évidemment. Mais on m'a appris qu'elle devienne bonne.
Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez reçu une sorte de formation pour le faux.
Bien sûr, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire de faux sans une connaissance parfaite du peintre, d'abord, de ses techniques et de son entourage. Moi, tous les gens pour qui j'ai travaillé dans le faux, parce qu'il y a eu un procès sur la dernière équipe d'imbéciles avec qui je travaillais, mais j'ai travaillé longtemps avec des gens très compétents. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu d'histoire ni de retour. Les faux sont devenus vrais. Parce que maintenant, on fait des certificats pour authentifier une œuvre. Un faux tableau avec un vrai certificat devient vrai. Vous comprenez? Un vrai tableau avec un faux certificat reste faux. Et l'erreur que les gens ont fait la dernière fois, là, avec qui je travaillais, c'est qu'ils ont fait des faux certificats. C'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire. C'est pour ça que tout le monde s'est fait prendre. Alors que tous les gens avec qui je travaillais avant montraient les tableaux aux experts. Ils acceptaient, le tableau partait rentrait dans le domaine de l'art. Ils acceptaient pas, on détruisait le tableau, terminé. On n'ira pas vérifier, vous prenez la Gazette de Drouot, on n'ira pas vérifier si tout est bon dans la Gazette. Vous ouvrez une Gazette de Drouot, certificat d'un tel, personne n'ira douter de l'authenticité de l'œuvre. Je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup de fausses. Pourquoi? Parce que les gens n'achètent pas l'œuvre, ils achètent le certificat. On investit dans le certificat. Moi, tous les marchands que j'ai vus, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, la première chose qu'ils demandent, c'est le certificat. L'œuvre, ils s'en foutent complètement.
Donc pendant toute une période, vous avez, disons, appris à faire des faux, vous avez perfectionné en quelque sorte votre technique pour faire par exemple des faux Chagall.
J'ai appris à être Chagall. À penser exactement comme lui. Chagall, quand il rentrait dans son atelier, tous les matins, sa femme lui mettait un bouquet de fleurs. Et il s'inspirait de ce bouquet de fleurs. Ben, je faisais la même chose, moi. Moi, un jour, j'ai assisté, on m'avait convoqué. J'avais une commande d'un Chagall, bon, par un grand rabbin qui me l'avait commandé. Et il va faire le certificat chez Ida Chagall. Et ce certificat est contesté par Dupin de Maigue. Ida Chagall dit, mais je l'ai vu faire, il y a 40 ans. Dupin dit, il est faux. Et moi, j'étais mort de rire parce que je l'avais fait la veille. Et là, elle n'a pas démordu. Elle a dit, non, c'est mon père. Terminé. Voilà. Tout le monde était content. Le marchand était content. Le rabbin était content. C'est très drôle.
Alors, si on aborde la question des techniques du faux, Guy Ribes, j'imagine que la première chose pour faire un faux, c'est qu'il faut du matériel d'époque. C'est-à-dire déjà, il faut une toile d'époque, parce que sinon, on se rend compte tout de suite que c'est une toile d'aujourd'hui.
Bien sûr. Non, puis moi, je les encadrais avec la... C'est là, la vraie magie, c'est que... Non seulement il y avait un faux tableau, mais il y avait des clous d'époque, des machins, du papier craft cassé, vieilli aussi. On vieillissait tout. Je faisais ça à l'époque avec un encadreur qui est mort maintenant, mais qui était un génie. Il appelait ça la perlimpinpin. Il me disait, alors je te fais des perlimpinpins. Je lui laissais 10 pour le matin, je revenais le soir, il était encadré, vieilli, avec des vieux cordes, tout, même la poussière derrière la glace. Ils avaient été faits la nuit. Personne au monde ne pouvait dire que ce tableau venait d'être fait. C'était pas possible.
Antonin Lévy, vous êtes avocat. Donc vous avez été l'avocat de Guy Ribe pendant son procès. Est-ce que vous pourriez expliquer comment fonctionnait le réseau qui était autour de Guy Ribe ?
Le terme de réseau autour de Guy Ribe est vraiment le terme le plus approprié, puisque dans la totalité des faits qui lui étaient reprochés, il y avait deux parties dans tout le dossier. Il y avait la partie autour de lui, qui était la partie commerciale, qui consistait à mettre sur le marché de l'art des œuvres contrefaites, des œuvres à la manière d'eux. Et il y avait la matière première, qui était le peintre, qui était le côté artistique, qui était Guy Ribe, qui seul dans son atelier, dans son petit atelier, produisait en une nuit un Chagall, en trois jours un Picasso, en une semaine un Dali, en une heure un Marie Laurencin. Et c'était donc lui qui était le seul faussaire, comme on l'appelle, mais plutôt le seul artiste, comme je préfère le qualifier, de tout ce réseau.
Comment les toiles étaient ensuite mises sur le marché ? C'est-à-dire comment ça fonctionnait de manière très concrète ?
Guy Ribe produisait dans son atelier. Les revendeurs venaient chez lui, littéralement tapaient à la porte. Il a raconté comment on pouvait venir le réveiller à 8h du matin en lui disant « t'as pas un petit Chagall qui traîne dans un coin ». On venait faire ses emplettes chez Ribe, on voyait ce qu'il avait produit, ou parfois on lui passait commande, on lui demandait une œuvre spécifique selon les besoins. La personne repartait avec son tableau sous le bras. Et ensuite, suivant un réseau d'escroquerie classique, il fallait trouver des acheteurs. Et donc, évidemment, pour justifier l'existence d'un Picasso méconnu, il faut lui trouver une origine qui soit crédible, une origine qui n'apparaisse pas comme trop suspicieuse. Et donc, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Le stratagème le plus simple, c'est l'héritier désargenté qui a hérité d'une collection un peu secrète, qui a besoin de quelques liquidités de manière discrète et rapide, et qui souhaite évidemment pour cette raison se défaire, moyennant un prix honnête mais juste, moyennant naturellement paiement de manière agréable, c'est-à-dire autrement que par la forme d'un chèque ou d'un virement, souhaiter se défaire d'œuvres dont il a pu hériter et qui lui fendent le cœur d'avoir à les laisser ainsi partir, mais malheureusement les dures lois de la vie font que. Donc vous réussissez à endormir la confiance de l'acheteur et celui-ci, pensant faire une bonne affaire, pouvait acquérir auprès des réseaux de revendeurs la toile concernée.
Comment ça se passait ? C'est-à-dire que vous receviez des commandes, voilà, il nous faut telle toile de tel grand maître de la peinture, voilà, telle dimension.
Voilà, comme c'était des marchands professionnels, ils avaient des collectionneurs, des vrais collectionneurs, des gens avec des vrais tableaux. Le génie de ces gens-là, c'était de faire passer le collectionneur au stade au-dessus. Ces collectionneurs avaient des tableaux, des petits tableaux de maître d'une certaine valeur, mais ces gens-là n'avaient pas les moyens de se payer une gouache de Chagall, ça voit, mais on le prend. Le génie de ces gars-là, c'était de racheter les bons tableaux pour vendre un faux. Ça fait que non seulement ils prenaient de l'argent sur le faux qu'ils vendaient, mais ils récupéraient encore des bons tableaux. Ils ont dépouillé des dizaines de collectionneurs comme ça, qui se sont retrouvés qu'avec des faux.
C'est-à-dire, ils rachetaient un vrai tableau en échange d'un faux, c'est ça ?
Non, ils arrivaient chez les gens, chez les collectionneurs. Bon, il y avait le collectionneur monte sa collection de tableaux. Bon, il a affaire en face de lui à un marchand connu sur la place de Paris qui lui parle d'une aquarelle de Chagall, d'un dessin de Matisse. C'est le rêve de ce collectionneur-là, mais il n'a pas les moyens de l'acheter. Seulement, on connaît un fils de famille qui voudrait traiter en douce, et on vous rachèterait ça. Vous comprenez la suce ?
Mais c'est-à-dire quand ils vous demandaient un pipi ou un chacha, comme vous dites, c'est-à-dire un Picasso ou un Chagall, ils vous demandaient une copie exacte ou ils vous demandaient...
Non, je n'ai jamais fait de copie, moi. Non. Non, ils voulaient une gouache de Chagall. Évidemment qu'ils ne voulaient pas une copie, ils voulaient un truc que personne, qui n'existait pas. Non, puis même dans tous les faux que j'ai faits, il y en a eu vraiment des grands, que j'appelle des grands faux. Des choses magnifiques qui, même moi, me touchaient. Oui, ouais. D'ailleurs, c'était le but du jeu. Chaque fois que je finissais un tableau, je le laissais et je le revoyais 2 ou 3 heures après, comme si je ne le connaissais pas. Il fallait que j'aie l'émotion. Quand j'avais l'émotion, je savais qu'il était bon. Et j'ai travaillé avec des marchands, pas les derniers, là, mais y a quelques années, je travaillais avec des gens qui me disaient, Guy, quand on vient chercher le tableau, tu le poses sur un chevalet, tu dis rien. C'était des pros. Ils rentraient, il fallait qu'ils aient l'émotion. L'âme du peintre. Par exemple, un dessin de Picasso, il faut que le dessin que vous allez faire, par exemple, je fais un dessin de 1915 ou 1900, bon, peu importe, faut que je sache exactement le jour où il a fait ça, où il était, comment, pourquoi il a fait ce dessin. Et comme Picasso faisait, alors je parle de Picasso entre autres, parce que il faisait jamais un seul dessin. Il répétait 10 fois le même dessin, parce qu'il cherchait. Et mon jeu à moi, c'était d'en mettre un au milieu. Comme si, après, je refasse la même recherche que lui. Et hop, j'en glissais un au milieu. Parce qu'un expert, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le même travail que moi, mais à l'envers. Et le truc, c'est de lui mettre un doute. Parce qu'un expert qui a un doute, il donne le certificat.
C'est-à-dire?
Un expert qui est dépassé par un tableau, c'est-à-dire... Il le sent bon, il n'a pas tous les éléments, mais il y a beaucoup de choses qui correspondent à mes recherches. Donc il est couvert. Il prend le risque. Moi, je leur posais vraiment un problème. Je laissais même déchirer, pourrir un dessin. Je le faisais restaurer. Dans la tête d'un expert, il dit, attendez, si c'est un faux, c'est pas possible. On ne restaure pas un faux. Chaque fois qu'il y a eu le doute, le peuple arrêtait là. Donc, je pense que dans la création, et dans l'expertise, et pour arriver au collectionneur, je pense que personne n'est volé là, à ce niveau-là. Le collectionneur, il a une œuvre qui lui plaît. Il a acheté une œuvre. Avec son certificat, tout le monde est content. Et vous vous posez la question, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est vrai? Mais une fois que vous avez fait le tableau, il rentre dans l'autre univers. Il ne vous appartient plus, c'est fini. Vous n'êtes plus rien. Le tableau existe, le marchand existe, mais vous n'existez plus. Et vous ne pouvez plus exister. Comme moi, certains tableaux que j'ai faits, si j'allais dire maintenant, c'est moi qui les ai faits, j'ai aucune trace.
Aucune preuve, en fait.
Aucune preuve. Et dans les musées, chose que vous ne savez peut-être pas, il y a beaucoup de faux, de copies qui sont mises pour ne pas laisser les vrais. Pour ça, on dit des fois, tiens, je suis dans un musée en province, marrant, ce tableau, il n'a aucune protection, je pourrais le décrocher. Oui, pourquoi? C'est une copie. Pour les gens qui viennent dans ce musée-là, l'émotion est la même. Donc, pour un collectionneur qui achète un faux tableau, il ne le sait pas. Hein. S'il y a l'émotion, il l'achète. Il y croit. Je pense pas qu'à ce niveau-là, il y a escroquerie. Il y a escroquerie quand on lui vend un tableau avec la fausse garantie qu'il est vrai. C'était l'erreur de la dernière équipe, là. C'est ce qui a déclenché toute la commission rogatoire. Parce qu'il y a longtemps qu'ils étaient derrière moi, les flics. Hein. Ouh là là, ils me l'ont dit, ça fait des années qu'on est derrière vous. Seulement, on ne pouvait pas vous attraper parce que vous ne vendiez pas. Et ils ont attendu, pendant des années, ils ont attendu que je passe une erreur. Et l'erreur, je l'ai faite. C'est-à-dire, j'ai vendu à mon compte. Et là, ils étaient là. Là, ils ne m'ont pas loupé. Hein. Ils ont attendu patiemment pendant des années. La seule fois en 40 ans que je vends moi-même, pouf, ils étaient là. Alors, flag. Hop. Bon, j'aurais pu dire, ok, je planche pour ça. Je risquais pas grand-chose, mais ils ne m'auraient pas lâché de toute façon. Puis j'en avais marre. Ça voulait dire, rip, bon, alors, stop. Stop.
Michel Fournier, vous êtes chef de la brigade centrale pour la répression des contrefaçons industrielles et artistiques. Nous sommes dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre. Comment avez-vous été mis sur la piste de Guy Ribe?
Bon, d'une part, on remarquait que à travers la France, il y avait plusieurs enquêtes où l'on trouvait des faux tableaux de différents artistes. Et puis, un beau jour, à la fin de l'année 2004, le petit déclencheur qui arrive parfois dans les services de police, une personne qui veut nous confier un renseignement.
Ça veut dire que Guérib a été dénoncé.
Ça veut dire que son activité, on ne va pas tourner autour du pot, il a été dénoncé comme pouvant se livrer à des activités de faussaire.
Est-ce que vous pouvez révéler qui a dénoncé Guérib?
Non, vous vous doutez bien que, comme tous les services de police ou de douane ou de gendarmerie, nos informateurs sont préservés.
Michel Fournier, comment avez-vous fini par arrêter Guérib?
C'est-à-dire que ça a été une enquête de police classique, comme je vous l'ai dit. Nous avons cerné son environnement, sa manière de vivre, des surveillances, des procédures classiques de police qu'on peut voir dans tous les films, quelques écoutes téléphoniques. Et puis un beau jour, quand on l'a interpellé, on n'avait pas vraiment prévu de l'interpeller ce jour-là. C'est simplement l'occasion qui a fait le larron. On a vu une transaction avec des faux dessins, des faux tableaux qui se faisaient sur le trottoir. Ça nous a semblé louche. On a dit, bon, on y va.
Comment s'est déroulée l'arrestation ?
L'arrestation s'est déroulée très calmement, aucune résistance. Ça s'est fait, je vais dire, entre gentlemen dans les rues de Saint-Mandé.
Quelle impression vous a fait Guérib au moment où vous l'avez arrêté?
On retrouve ça chez beaucoup de faussaires. C'est que quelque part, une fois qu'ils sont arrêtés et qu'il y a des preuves plus ou moins indéniables, souvent ils sont fiers de leur travail. Et donc ils aiment bien fanfaronner un petit peu, et puis ça leur fait un petit peu plaisir qu'on reconnaisse leur qualité de faussaire.
Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de votre arrestation?
J'ai dit ça s'arrête tout. J'ai dit, un peu comme un criminel, vous savez. Je leur ai dit, vous me soulagez, j'en avais marre. C'est vrai, j'en avais marre de travailler avec ces gens-là. Parce qu'il y avait plus ce côté amusant et artistique. Eux, c'était vraiment de l'escroquerie. C'est pas ce qui m'attirait, moi. Non, j'en ai marre. Puis aussi, j'ai fait des faux. Pourquoi? Parce que ma peinture marchait pas. Elle marchait pas pour une simple raison, parce qu'elle n'était pas stabilisée par rapport à quand vous faites du Picasso, vous passez à Chagall. Comment voulez-vous parallèlement créer une œuvre à vous? Donc le jour où les flics m'ont arrêté, j'ai dit, je suis devenu peintre. Redevenu peintre. Tout s'est restabilisé, si vous voulez, dans ma création. C'est-à-dire, je suis retombé rib. Parce que quand vous faites des faux pendant des années, vous ne savez plus qui vous êtes. D'ailleurs, la dernière exposition que j'avais faite, à l'époque où je faisais encore des faux, on le sent dans toute l'exposition, c'est du sous-Lotte, c'est du sous-Picasso, c'est du sous... C'est ce qu'on m'a dit, rib, c'est super, mais... On retrouvait toutes les techniques... Et c'est un vrai piège, ça. Et pour sortir de tout ça, il fallait que ça, qu'il se passe quelque chose de terrible, et ça s'est passé pendant 7 ans. Parce qu'ils m'ont carrément démoli. Hein. Dans ce procès, le jugement, il n'a pas d'importance, parce que vous êtes jugé et condamné avant le procès. Que 7 ans d'instruction, 7 ans de pointage, 7 ans, vous perdez tout. Moi, j'ai tout perdu, tout. Mais j'ai gagné une chose, c'est que je suis redevenu moi-même. Je vais même rajouter que même si on me proposait de faire un faux maintenant, ça ne m'intéresserait plus. Maintenant, si on me demandait des faux, ça serait du rib. C'est quand même paradoxal. Mais c'est vrai.
Thank you.
Gilles Perrault, vous avez été expert lors du procès de Guy Ribe. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce faussaire ?
Alors, ce que je peux dire, que j'ai déjà dit à la barre, quand le président du tribunal, Madame le Président, m'a posé la question, c'est que Monsieur Ribe était un bon faussaire, puisque, comme vous le savez, il a fait défaut à peu près pour une dizaine d'artistes, allant de Dali à Picasso, en passant par Fernand Léger, en passant par Renoir, Marie-Laurencin, Chagall, etc., etc. D'ailleurs, il en était très, 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 très content. Il était tout à fait content de ce procès qui rétablissait sa notoriété quelque part.
Quand vous dites que c'est un bon faussaire, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire que, un, il avait une bonne patte, il avait un bon esprit de synthèse, et pour faire des pastiches. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas attaqué à de grandes œuvres, mais à de petites œuvres, et faisait des compilations de 2 à 3 œuvres. Et là, ça c'est imparable, parce que c'est des petites choses, si vous voulez, c'est pas forcément dans les archives de la famille, et puis ça n'a pas besoin de certificat de la famille pour être négocié. Et pastiche, pourquoi ? Parce qu'on arrive à retrouver la couronne qui provient de tel dessin, la tête qui provient de tel autre, et puis l'inscription qui provient d'une autre composition. Et évidemment, quand on voit ces dessins, eh bien, tout de suite, dans notre mémoire, je dirais, collective, on s'est dit, mais c'est Picasso tout de suite, c'est évident.
Gilles Perrault, je voulais citer un court extrait d'un de vos rapports au moment justement de l'affaire Ribe, et j'aimerais vous faire réagir dessus. Donc vous parlez des contrefaçons de Guy Ribe, et vous écrivez « Ces contrefaçons les plus abouties, celles où il est le plus impliqué, plus par orgueil que par lucre, sont assurément reconnues authentiques par les experts, même chevronnés. »
C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il veut bien faire, on sent qu'il veut bien faire sur certaines toiles, et que pour moi, c'est de l'orgueil, si vous voulez, c'est pas pour gagner. S'il avait voulu gagner sa vie de façon plus lucrative, il aurait vendu lui-même ses toiles directement en salle des ventes, par exemple.
Ça veut dire qu'à un moment donné, il le fait peut-être aussi pour se mesurer.
Absolument.
Au plus grand.
Absolument, c'est ce que j'ai dit au tribunal. C'est-à-dire qu'on sent bien que, dans un premier temps, il essaye de vendre son œuvre, n'y arrivant pas, et même il nous a cité une anecdote où, étant vexé par un marchand, il a fait exprès de vendre un faux. Et que c'est comme ça qu'il a commencé, 30 ans avant. Ça, il le dit. Et là, je dirais, son esprit de vengeance, à ce moment-là, le pousse à bien faire les choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut analyser la situation.
Vous, en tant qu'expert, Gilles Perrault, vous avez travaillé sur de nombreuses affaires de faux. Est-ce que vous aviez déjà vu un peintre faussaire qui, comme Guy Ribe, était capable de passer avec autant de facilité de Chagall à Picasso, de Picasso à Renoir, de Renoir à Vlaminck, de Vlaminck à Dali?
Non, à ma connaissance, pas pour l'instant, non. Non, d'avoir une telle palette d'artistes, non. Pour un seul homme.
Ce qui est tout de même assez remarquable.
Attendez, ça c'est vous qui le dites, hein, c'est pas grave, moi ça me... Je sais pas, hein, remarquable ou pas.
Mais attendez...
Non, ne me faites pas dire des choses que je veux pas donner d'avis quand même autre que ce que j'ai mis dans mon rapport. D'ailleurs, je sais pas comment vous êtes procuré mon rapport, ça ne me regarde pas, mais... Non, il y a des choses que je ne veux pas dire, parce que c'est quand même de la contrefaçon, si vous voulez. Donc on reconnaît quand même que M. Guéry fait de la contrefaçon. D'ailleurs, il le reconnaît lui-même, hein, tout à fait. C'est assez amusant. À la barre, la présidente disait, ce tableau, M. Rime, l'expert dit qu'il est de votre main. Est-ce que vous le connaissez ? Oui, celui-là, il n'est pas de votre main. Est-ce que vous le connaissez ? Oui. Bon, on était d'accord. C'est la première fois que je suis tout à fait d'accord avec un faussaire. Très content qu'on reconnaisse son travail.
Mais Gilles Perrault, c'est aussi parce que vous en reconnaissiez la qualité de son travail.
Oh, je ne sais pas. La qualité... Je ne vais pas faire son apologie. Vous ne me ferez pas dire ça.
Qu'est-ce qui a été dit de vos faux, Guy Ribe, pendant le procès ?
Par qui ?
L'expert, par exemple.
Bah, il a dit que, bon, Je lui ai facilité le travail, évidemment, en reconnaissant moi-même déjà les trucs. Il a fait que confirmer, mais en surface. Et il a dit une phrase marrante, d'ailleurs. Il a dit, si Picasso était encore vivant, je pense qu'il l'embaucherait. Un procès, c'est quand même curieux de la part d'un expert. Pas de mots, il n'a pas dit un seul mot de mal. D'ailleurs, personne, ni le procureur, d'ailleurs. C'était très amusant, on serait cru dans une exposition. À chaque pause, on serait cru, il manquait que les petits pours.
Vous avez gagné beaucoup d'argent avec vos faux.
Comment ? Oh, je sais plus. J'ai vécu, quoi. Non. Bah, c'était assez fascinant, quand même, de se retrouver avec de l'argent sur une nuit de travail. On a toujours eu l'impression de puissance. On se dit, tiens, j'ai pas perdu mon temps, on existe. Mais je pense pas que si on pense comme ça, on peut pas être bon. D'ailleurs, ce que je détestais, c'est quand ils arrivaient à l'improviste pour me dire, il me faut ça pour demain matin. Ça, je pouvais pas. Parce que moi, quand j'avais des commandes, deux jours avant, immobile. Il fallait que je sois prêt. Et j'attaquais un matin, à l'aube, hop, j'étais.
Combien de temps ça prend pour faire un bon faux ?
Mais pourquoi ? Pour qui ? Un dessin de Picasso, il le faisait en 40 secondes. C'est ça, dans un dessin de Picasso, que Picasso, par exemple, faisait d'un seul geste, il faut remonter le temps quand vous le faites. Un dessin de Matisse, ça paraît très simple, mais c'est simple. C'est simple tellement que c'est parfait. Seulement, quand vous faites, vous voulez refaire la même chose, il faut avoir exactement la même vitesse, pour remonter le temps. C'est ça qui est génial dans un faux, quand il est réussi, quand vous êtes vraiment approché au plus près du... C'est une sensation magique. C'est amusant de duper. Pourquoi Picasso, pourquoi pas moi? Pourquoi un dessin de Picasso vaut des centaines de millions, 40 secondes, et une de mes toiles où je mets 300 heures de boulot, rien. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement. Ce qui ne va pas, c'est mon histoire. Si vous voulez, avec cette histoire de faux, tout ce process a déclenché qu'on s'intéresse à moi, qu'on vient me voir. Moi, je n'intéresse personne, comme des milliers de peintres. Vous comprenez ?
Vous l'avez rencontré, Picasso ?
Je l'ai croisé. Oui, c'est à Cannes, oui. D'ailleurs, je suis le seul à avoir vu les seuls Picasso que personne ne verra, parce qu'il dessinait sur la plage, c'était la nuit, avec sa canne, et les vagues effacées. C'est-à-dire, j'ai vu les seuls œuvres de Picasso que personne ne reverra. Un soir, je remontais comme ça, et il y a une limousine garée, et Picasso est descendu de la limousine, il est descendu. Et à l'époque, je ne savais pas qui c'était. Moi, j'avais ma poussette avec mes pinceaux. Alors, je m'étais assis pour le regarder, puis quand il est remonté, il m'a regardé. Bien, il avait un regard terrible. Et il m'avait regardé, sans rien dire, il est parti. C'est ça, la magie. Comme je dis, je déjeunais, moi, avec Picasso. J'étais Picasso.
Guérib, quelle est votre situation matérielle aujourd'hui ?
Je suis LTF dans 15 jours. Je sais plus rien. Si, j'ai eu la chance d'être logé là pendant un an, donc j'ai travaillé comme un fou. J'ai une expo qui est quasiment faite là, de mes tableaux. Voilà, mais situation financière, zéro. Double zéro. Voilà. Donc, cherche à l'atelier, cherche les moyens de peindre, de vivre. Sans faire de peau.
Un jour où on s'était rencontrés, vous m'aviez dit « Je suis socialement bloqué aujourd'hui, mais heureusement, je ne suis pas artistiquement bloqué. » Qu'est-ce que vous vouliez dire ?
Ah, heureusement, je ne suis pas bloqué artistiquement. C'est la seule chose qui me reste. Non, non, je ne suis pas bloqué du tout artistiquement. Au contraire, je me sens très bien en ce moment. Alors, vous l'avez devant les yeux. Hein. Je ne pense pas que ce soit mauvais. Seulement, comme je vous l'ai dit aussi, si un marchand vient chez moi, il fera comme beaucoup, beaucoup de marchands que j'ai connus, qui ont pignon sur rue. Ils me demanderont d'abord des peaux, avant de même jeter un regard sur ma peinture.
Voilà. Maître Lévy, quelle est la peine qui a été prononcée contre Guérib ?
Alors, il a été condamné par le tribunal à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec ce qu'on appelle un sursis mis à l'épreuve. Bon, Guérib, d'abord, il a 65 ans, je ne sais pas s'il est encore vraiment, on va pas dire qu'il est grabataire, loin de là, mais il n'est pas non plus à l'âge, on peut faire des projets sur l'avenir et sur le très long terme. Sa situation financière est complexe, pour le moins complexe, et c'est vrai qu'il vit... Il vit de mois en mois en essayant de réussir par des amis qui l'aident, en vendant quelques-unes de ses propres toiles à lui, sous sa propre signature, avec son propre style, en essayant de vivoter. Donc nous cherchons aujourd'hui une galerie qui souhaiterait avoir un jeune homme de 65 ans arrivé à la maturité de son art et capable, puisqu'il a une production importante qu'il a réalisée durant toute cette instruction et durant tout ce procès, sous sa propre signature, j'insiste encore une fois là-dessus, pour les policiers qui nous écoutent, donc capable de faire une exposition pour Guérib. Je pense d'une part que, en termes purement visuels, c'est intéressant, en termes humains, ça l'est tout autant, et le marché de l'art, très sincèrement, n'en sortira pas affecté, très loin de là.
C'était Portrait d'un faussaire. Avec Guérib, Antonin Lévy, Jean-Luc Léon, Michel Fournier, Patrick Le Chanu et Gilles Perrault. Prise de son, François Rivalant. Attaché de production, Laure-Hélène Planchet et Christine Gage. Merci à Judith Benhamouhuette et Sylvie Faguet. Sur les docks, Jean-Baptiste Pertier, Yvon Croisier.